Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Grand témoin de l'histoire, le docteur Diomi Mawesa Pierre. Nos grands témoins ont certaines choses en commun et d'autres qui sont particulières à chacun d'entre eux. En commun, ils ont bien sûr le privilège de l'âge, parce qu'il faut avoir vécu assez longtemps pour apparaître comme un grand témoin et avoir vécu dans un temps long dans lequel il y a beaucoup de changements. Et comment ces grands témoins ont accompagné ces changements, les ont peut-être anticipés ou s'en sont servis pour rebondir dans les différentes activités qui ont été les leurs. Mais ils ont aussi chacun son propre itinéraire, c'est-à-dire la manière dont ils ont construit leur existence, et peut-être plus encore pour être exemplaires, comment ils ont été amenés à faire certains choix plutôt que d'autres. S'ils ont rencontré dans ce temps long des choses rares, des choses exceptionnelles, et peut-être aussi des personnalités autres qu'eux-mêmes qui ont joué un rôle important à tous les niveaux dans l'histoire de notre continent. Bonjour, docteur Dieu.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous, à Kinshasa. Vous êtes le modèle même d'un grand témoin, puisque vous avez aujourd'hui vous allez sur vos 87 ans, puisque vous êtes né dans la ville qu'on appelait à l'époque Léopoldville et qui est aujourd'hui Kinshasa, le 16 novembre 1931. Alors, il y a dans votre vie quelque chose déjà d'un peu paradoxal, parce que vous avez le privilège d'être ce qu'on dit ici un vrai Kinois, c'est-à-dire vous êtes né à Kinshasa. Or, les choses ont fait que vous êtes retourné au village, c'est-à-dire aller d'un endroit où il y a beaucoup d'opportunités, notamment pour un enfant, vers un endroit où apparemment il y a moins d'opportunités. Comment cela se fait-il?
Il se fait que mon père était dans l'administration coloniale et il a pris sa pension et il a ramené tous ses enfants chez lui, au village, tout près de lui là.
Et alors, dans ce village, quand vous y rentrez, vous avez quel âge? 4 ou 7 ans, c'est ça? Bon, 4 ans. C'est-à-dire, vous êtes au moment où, nous sommes en 1935, le moment où la scolarité des enfants du Congo commence à devenir assez normale. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Dans le Bas-Congo, on sait qu'il y avait pas mal d'écoles, mais là où vous étiez, est-ce qu'il y en avait suffisamment pour un jeune de cet âge commencer en première année de l'école primaire?
Malheureusement, il n'y avait pas d'école à l'endroit où nous nous trouvions. C'est ainsi que mon père m'a envoyé chez un cousin à une quinzaine de kilomètres de notre habitation habituelle. Et là, j'ai commencé à étudier dans une école qu'on appelait à l'époque école rurale. Et j'ai passé près d'une année. Et puis, mon père a été embauché par un colonial en retraite qui avait une concession sur les terres de mon père. Et il me voyait jouer avec les autres. Et puis, à un moment donné, il ne me voyait plus. Il a posé la question à mon père, « Mais où est ton dernier-né ?» Mon père lui a dit, il est dans tel village, c'était à Boko, parce qu'ici il n'y a pas d'école. Il est allé là à l'école. Et M. Mignot m'a dit, ah, cet enfant doit revenir, je vais créer une école. Il a créé une école rurale qu'il a confiée au père rédemptoriste de Sonabata. Et je suis revenu au village et j'ai poursuivi mes études primaires. À l'époque, on passait 2 années dans une école rurale avant d'aller à la mission. Et le moment venu, je suis allé à la mission où j'étais interne pendant plusieurs années.
Pour nos auditeurs, c'est peut-être bien de dire que les rédemptoristes, c'est une congrégation de vieille date, puisqu'elle remonte au début du XVIIIe siècle et a eu une vocation très importante en Europe où elle a alphabétisé, christianisé les paysans. Donc vraiment, ils connaissaient ce travail. Donc ils étaient quand même un peu différents, disons, des congrégations missionnaires qui sont venues à la colonie spécialement. Et donc, vous avez fait là-bas de bonnes études ?
J'ai fait de bonnes études et la sanction a été c'est que j'ai réussi à terminer mon école primaire. Et après, j'ai été inspiré par mon frère qui était, au moment où j'ai terminé mon école primaire, était au Moyen-Orient. Il m'avait écrit une lettre qui m'est parvenu à son abattoir où j'étais en internat. Il m'a donné une orientation. Il m'a dit, vous avez deux choix. Ou bien vous allez au séminaire pour devenir abbé, ou bien vous allez là où moi j'ai été, à Kisantu, pour que tu deviennes assistant médical. Comme je n'avais pas de vocation missionnaire, j'ai choisi de devenir assistant médical comme mon frère. Et en 1946, j'ai terminé donc l'école primaire à Sonabata et je suis allé à Kisantu. C'était chez des frères d'Ostaker, une petite ville qui est en Belgique, où j'ai commencé l'école moyenne. J'ai passé 3 ans là-bas et puis je suis allé à ce qu'on appelait à l'époque pédagogie. C'est une école tenue par des jésuites. J'ai fait des études ensemble avec des collègues qui venaient de partout. Qui venait même du Rwanda au Burundi, à l'époque on appelait Rwanda au Burundi. Nous avons terminé ensemble. Par exemple, nous étions avec Liaou, Mukamba et d'autres qui n'inspiraient pas à aller dans la section médicale, mais qui faisaient partie de préparatoire, un tronc commun. Nous avions terminé ensemble et eux sont partis pour la section administrative. Moi, je suis allé pour la section médicale.
Les gens que vous avez cités là ont eu de grandes fonctions au Congo après l'indépendance et ont joué un rôle politique de tout premier plan. Alors vous choisissez la médecine à l'exemple de votre frère ou parce que vous sentiez une vocation ?
C'est à l'exemple de mon frère. Mon frère était mon modèle parce que lui a eu une carrière fulgurante et très apprécié.
Gaston Diomi a été donc assistant médical connu, donc cela lui a donné aussi une base sociale dans la ville de Kinshasa. Bien sûr, lorsqu'il y a eu les premières élections municipales, il a été élu triomphalement dans un quartier où la question ethnique, comme on dit, ne se posait pas parce qu'il y avait un brassage de population important et lui, on le connaissait comme médecin. Et alors, donc vous êtes assistant médical, ça veut dire quoi ? Parce qu'il y a médecin ou pas médecin, donc un assistant médical, c'est à dire qu'il y a médecin, il y a infirmier, et un assistant médical se situe où dans cette hiérarchie ?
L'assistant médical est au-dessus de l'infirmier, est en dessous du médecin. Vous savez que pendant la colonisation, il était interdit aux Congolais d'exercer la médecine pleinement. Il devait toujours dépendre d'un médecin blanc. Il n'y avait pas de médecin noir ici au Congo. Et les médecins africains qu'on formait à Dakar à l'époque avaient le même programme que l'assistant médical ici au Congo. Nous avons eu lorsque moi j'ai terminé mon école d'assistant médical, j'étais envoyé en Guidinga. C'est une petite mission des jésuites pendant une année. Et après, on m'a ramené à Kisantu. Et en 1958, j'ai été choisi, ma femme et moi, pour aller à l'exposition de Bruxelles.
L'exposition universelle de Bruxelles, qui a été une très grande exposition, oui. Qui a été d'ailleurs aussi en même temps une exposition coloniale, hein, puisque oui. On a fait ce qu'on avait fait depuis longtemps, oui. Et à cette occasion, un petit nombre de Congolais ont obtenu le droit d'aller en Belgique, mais formaient quand même un groupe assez consistant. Donc vous étiez de ces gens-là.
J'étais de ces gens-là.
Il y avait des Lumumba, plein d'autres gens importants évidemment avec vous.
Oui. Et lorsque l'exposition était terminée, au lieu de revenir au pays, je me suis accroché là-bas pour chercher à poursuivre mes études universitaires. Les études de secondaires qu'on avait ici au Congo à l'époque ne comptaient pas en Belgique. Ces études ne conduisaient nulle part. Et pour entrer à l'université en Belgique, on m'a exigé de faire le jury central, c'est-à-dire pour les humanités. Et j'ai préparé le jury central grâce aux pères jésuites qui m'ont toujours accompagné. J'ai réussi. C'est ainsi que j'ai un diplôme d'études secondaires intitulé « Au nom du roi des Belges ».
Je signale qu'à ce moment-là, quand vous avez ce diplôme, vous allez sur vos 27 ans. Voilà. Donc, comment dire, là, je n'ai pas un handicap par rapport à vos études. Ce que ça veut dire, c'est que on peut à tout moment, quand on a la volonté et l'opportunité, passer des diplômes que d'autres passent à un âge beaucoup plus précoce.
C'est cela. C'est cela. Moi, j'étais déterminé parce qu'au moment où nous étions à l'exposition, il y a le gouverneur général ici qui a envoyé un télégramme aux universités belges pour ne pas admettre les Congolais pour les études de médecine, d'ingénieur, de droit. Et c'est ainsi que les pères jésuites, qui allait toujours à l'encontre de certaines décisions que les autorités coloniales prenaient, ont regroupé plus d'une quinzaine de jeunes gens qui étaient mes condisciples à Kisantu pour aller faire des études universitaires. C'est dans ces groupes que les Liaou, les Mukamba, les autres se trouvaient. Ils sont allés là, on leur a dit, Liaou voulait faire le droit, et on lui a dit, pas question. Et ceux qui voulaient faire la médecine ne pouvaient pas le faire. Et en ce qui concernait Liaou, les jésuites sont très malins. Ils lui ont dit, entrez en philologie romane, parce que le préparatoire de droit et de philologie romane, c'est pareil. Et l'année prochaine, certainement, les choses vont changer dans votre pays.
Et les choses ont changé, effectivement. Donc, il a pu, justement, entrer directement en politique. Mmh. Mais alors, vous poursuivez en médecine. Vous devenez docteur en médecine à l'Université de Paris en 1963. Mmh. Donc, vous sautez de la Belgique vers la France. Mmh. Et vous allez d'ailleurs accumulé les diplômes. Hein. On voit que vous avez eu aussi à l'Université de Paris toujours un diplôme de médecine malariologiste, donc spécialiste de la malaria. Mm-hmm. Vous avez obtenu un titre de Doctor of Philosophy de l'Université d'Aberdeen en Écosse. Mm-hmm. Et donc, vous êtes parti un peu lentement, hein, mais comme disent les Italiens, qui va piano va sano, hein, ils ajoutent, qui va sano va lontano, celui qui va sûrement va très longtemps. Et donc, vous devenez en fait le premier grand médecin, professeur de la République démocratique du Congo.
Exactement. J'ai dois souligner quelque chose. Lorsque j'ai terminé, j'ai obtenu le diplôme d'humanité en Belgique, c'est ce qu'on appelle le baccalauréat en France. J'ai été invité par l'Université de Louvain qui m'a demandé de reprendre la médecine dès le début. Donc les connaissances que j'avais, un assistant médical connaissait quand même beaucoup sur la médecine, d'oublier tout ça et d'aller commencer en première année.
Avec les jeunes gens qui sortaient de l'école secondaire.
Voilà. Alors, il y a de Belges de bonne volonté qui m'ont dit, mais allez plutôt à Paris. Parce que ce programme d'assistant médical n'est pas unique au monde, parce que en Afrique, à Dakar, il y a ce qu'on appelle médecins africains, qui sont exactement assistants médicaux ici, chez nous. Tout simplement, au Congo, on ne voulait pas accorder le mot médecin aux Congolais. Il fallait qu'il soit l'auxiliaire de médecin. Alors, c'est ainsi qu'on a fait des démarches et on a trouvé effectivement qu'il y avait une équivalence de diplôme entre médecin africain formé à Dakar et l'assistant médical formé ici à Kisantu et à Kinshasa et à Mbandaka et tout ça. Donc, j'ai profité de cela. Et j'ai, sans examen, ils sont basés sur mon diplôme d'assistant médical qui était connu là-bas parce que on m'a exigé d'autres exigences. Et je suis entré en quatrième année de médecine à l'Université de Paris. Et même en 60, lorsque le pays est devenu indépendant, le monde entier a compris que au Congo, les Belges n'ont pas formé d'élite. Ils ont l'OMS est venu me consulter pendant que je faisais mes études à Paris. Comment j'ai fait pour parvenir jusqu'à être admis à l'Université de Paris? Et je leur ai expliqué. C'est ainsi qu'à un moment donné, dans le pays, vous avez eu un groupe d'assistants médicaux qui sont partis en France pour parachever leurs études médicales et devenir médecins. L'OMS est basée sur ma démarche que j'ai faite auparavant, une année auparavant.
Voilà donc un itinéraire long, mais parsemé d'embûches, de préjugés, disons, coloniaux et raciaux, à travers lequel, quand même, vous réussissez à passer pour devenir médecin indiscutable. Hein, la faculté de médecine de Paris ne peut pas être remise en question. Et donc, non seulement vous allez continuer à pratiquer la médecine, mais vous allez à votre tour devenir un formateur de médecins qui sont aujourd'hui très nombreux, qui sont en quelque sorte vos enfants ici au Congo et à travers le monde. Nous reviendrons sur cela dans une prochaine émission. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort.
Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.